et le journal de Frédéric Parer. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Une nouvelle offre politique à 6 mois de la présidentielle. Édouard Philippe a lancé aujourd'hui au Havre son nouveau parti Horizon, un projet de droite Macron compatible. Nous serons au Havre dans un instant. La France va relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort lors d'une cérémonie au Panthéon à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine capitale en France. Emmanuel Macron, aux côtés de Robert Badinter, ont lancé un vibrant appel à l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. Les urgences à l'hôpital vont mal. À Laval, le personnel des urgences appelle à une grève illimitée et manifeste contre un projet de partenariat entre l'hôpital de Mayenne et l'hôpital de Laval. Dans ce journal également, mobilisation générale à Marseille pour nettoyer l'Uvonne, le fleuve qui traversait la ville, encombré de déchets après les intempéries. Et puis en football, le forfait d'Adrien Rabiot testé positif au Covid-19 pour la finale de demain de la Ligue des Nations. La météo, grisaille le matin, soleil l'après-midi. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Horizon au pluriel, c'est donc le nom du nouveau parti lancé ce matin au Havre par Édouard Philippe. Horizon parce qu'il faut voir loin, a expliqué l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe a aussi réaffirmé sa volonté de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron en 2022. Le maire du Havre souhaite, avec sa nouvelle formation politique, élargir vers la droite le socle de soutien à Emmanuel Macron et son nouveau parti. C'est donc Horizon. Sur place, Maxence Lambrecq.
Nom masculin, définition, ligne imaginaire, circulaire, dont l'observateur est le centre, où le ciel et la terre, la mer, semblent se confondre.
Pourquoi Horizon ? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin.
Voir loin, pour la France, Horizon 2050, pour lui, Horizon 2027, car il a renouvelé
très très clairement
son soutien à Emmanuel Macron.
La réélection du président de la République, elle passera par l'élargissement de sa base électorale. Et probablement par l'élargissement de la représentation de cette base électorale.
Comprenez, il faudra beaucoup de députés Horizon. Politiquement, ce nom ne veut rien dire. Il faut donc écouter les 2 heures de discours.
Je sais que nous n'arriverons à rien si nous ne remettons pas de l'ordre dans nos comptes et de l'ordre dans nos rues.
Pour comprendre que c'est un parti de droite.
Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit récemment une phrase qui laisse songeur, mais dont je partage tous les termes. La crise migratoire, elle n'a pas commencé. Elle est à venir.
Libéral et pronucléaire. Pour moins de fonctionnaires, une retraite plus tardive, des élus locaux plus forts, Édouard Philippe sous-entend toutes ses différences avec Emmanuel Macron, mais ça ne saute pas aux yeux.
J'ai un soutien sans faille au président de la République, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est tout ce qu'on voulait savoir et c'est très bien comme ça.
Le patron des députés En Marche, lui, a bien saisi les attaques. Christophe Castaner a évité la Marseillaise sur scène et est reparti très vite à Paris. Au Havre, Maxence Lambrecq, France Inter.
Et toujours au chapitre politique ce week-end, des tensions et des échauffourées en Corse à Ajaccio entre soutien et opposants à Éric Zemmour. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour séparer les deux camps. Le polémiste était en Corse aujourd'hui pour une conférence publique pour la promotion de son livre et après son discours en plein air sur le port d'Ajaccio devant environ 200 personnes. Éric Zemmour a dû annuler sa déambulation dans les rues jusqu'à la librairie pour une séance de dédicace. Un vibrant appel à l'abolition universelle de la peine de mort lancé ce matin au Panthéon par Emmanuel Macron et Robert Badinter à l'occasion des cérémonies pour les 40 ans de l'abolition en France le 9 octobre 1981. Le chef de l'État a annoncé que la France allait relancer le combat pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde en organisant une rencontre au plus haut niveau début 2022 pour convaincre les pays qui l'appliquent encore. Même combat chez l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. La peine de mort est vouée à disparaître, dit-il, car elle est une honte pour l'humanité. Reportage au Panthéon, Élodie Forêt.
Le 17 septembre 1981, Robert Badinter livrait un vibrant plaidoyer devant l'Assemblée. 40 ans plus tard, sous les coupoles du Panthéon, il n'a rien perdu de sa détermination.
Tant que dans le monde, on pendra, on décapitera, on lapidera, on fusillera, toutes celles et ceux qui considèrent le droit à la vie comme un absolu moral doivent poursuivre leur combat.
Pour suivre le combat, Emmanuel Macron s'y engage dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Il promet de tout faire pour convaincre les États récalcitrants.
À chaque fois qu'une femme, un homme est condamné à mort, ce sont bien les valeurs universelles portées par les Lumières qui se trouve bafouée.
Et alors que le polémiste et probable candidat à la présidentielle Éric Zemmour a récemment remis en cause l'abolition, ce discours est plus que nécessaire selon Raphaël Chenuil-Hazan, directeur de l'ONG Ensemble contre la peine de mort.
C'est nécessaire de rappeler qu'on ne fait pas de retour en arrière et que ça ne sert à rien de jouer avec les émotions de l'opinion publique.
Des ONG qui saluent aussi l'autre annonce d'Emmanuel Macron, un projet de résolution à l'ONU pour que les États qui n'ont pas aboli la peine capitale communiquent chaque année le nombre d'exécutions.
Un adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, victime d'une agression au couteau, 3 coups de couteau dans la cuisse, une dizaine de personnes ont frappé et menacé 2 élus hier soir à la sortie d'un match de handball. Une enquête a été ouverte aujourd'hui pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les urgences vont mal à l'hôpital et la colère est encore plus forte à Laval, en Mayenne, où une partie du personnel des urgences du centre hospitalier appelle à une grève illimitée et reconductible. Les grévistes dénoncent leurs conditions de travail inadmissibles, disent-ils, et le manque de moyens. Selon la CGT, 70% des postes au sein de ce service crucial pour la prise en charge des patients ne sont pas pourvus. Une situation inédite et gravissime selon le syndicat. Par ailleurs, une manifestation a eu lieu ce matin à Mayenne. Entre 2500 et 3000 personnes ont défilé pour dénoncer le projet de partenariat entre l'hôpital de Mayenne et l'hôpital de Laval, un projet qui prévoit la mise en commun des équipes des deux centres hospitaliers. Sur place à Mayenne, Jeanne de Butler de France Bleu Mayenne.
Dans la rue, un seul mot d'ordre, quand c'est non, c'est non. Brigitte défile sous le soleil, la retraitée refuse de voir disparaître son hôpital.
Sur mon masque, j'ai écrit non, non à la fermeture de l'hôpital, parce qu'il est important de garder dans une ville un hôpital, pour qu'elle soit vivante et accueillante.
Tous ici voient d'un mauvais œil le projet de partenariat avec l'hôpital de Laval. René et Guy habitent Mayenne, alors se faire soigner à Laval, pas question.
J'ai été hospitalisée, ça a été super.
S'il fallait que j'aille à Laval pour aller... L'avoir à Laval, c'est un vrai problème. On va faire 60 km avec la voiture tous les jours pour rendre visite. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut ici, c'est très bien organisé.
Surtout qu'un hôpital en danger, c'est toute une ville en danger, explique Corinne.
On donne tout pour les grands centres et les grandes villes et on oublie un petit peu les petites villes et les campagnes. Si on ferme les hôpitaux de proximité, les gens ne pourront plus se faire soigner.
Dans le cortège, des blouses blanches et bleues aussi sont venues afficher leur soutien. Isabelle est infirmière anesthésiste.
On n'aura pas de poste à Laval, donc j'ai peur. Je ne veux pas perdre mon travail, j'aime mon travail. Et je suis infirmière anesthésiste avant tout.
Les manifestants espèrent que l'agence régionale de santé entendra leur cri d'alarme. Et ils l'assurent, s'il le faut, ils n'hésiteront pas et retourneront dans la rue une quatrième fois.
Poussé par la flambée des prix de l'énergie, l'inflation est là à 2,1% sur un an en septembre et les prix à la consommation devraient encore monter. L'hiver va sans doute être un moment compliqué et les industriels vont commencer à répercuter les hausses qu'ils subissent sur le prix de vente des biens de consommation. Mais à ce stade, les économistes estiment qu'il s'agit d'un phénomène passager. Les prix à la consommation poursuivront leur hausse au moins jusqu'à la fin de l'année avant de s'assagir. C'est le scénario retenu par la Banque de France, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, était l'invité ce matin d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho.
L'inflation va connaître un point haut dans les mois qui viennent, mais va ensuite redescendre sous 2% en rythme annuel d'ici la fin de l'année prochaine. Et ça, c'est notre prévision, et encore une fois, c'est pas seulement la nôtre, y compris c'est les anticipations des marchés et des professionnels. Je voudrais appeler votre attention sur un point important, c'est que j'ai dit que l'énergie, c'était très sensible, mais c'est 10% de notre panier de consommation. Le poste le plus important de notre consommation, la base, oui. C'est les services, qui représentent près de 50% du panier de consommation. Et ceux-là, ils connaissent une hausse beaucoup plus modérée. Hein. On est à 1,7%. Pensez aux loyers, aux aides à domicile, enfin tous les services que nous consommons, ceux-là, ils ne bougent pas beaucoup.
Donc ça n'est pas le début d'une spirale, c'est ça que vous êtes
alors,
en train de dire.
Je crois que ça n'est pas le début d'une spirale, même si nous sommes très vigilants. Mais au fond, pour ces deux raisons-là, c'est que le socle de notre consommation, lui, est sage, et c'est l'essentiel de notre consommation, et que ceux qui poussent fort, et c'est vrai que ça pousse fort, devraient être temporaires.
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. À l'étranger, plus d'une centaine de personnes sont mortes ou sont portées disparues en République démocratique du Congo. Après le naufrage de plusieurs pirogues, leur embarcation était en surcharge et la météo très mauvaise. Le drame a eu lieu en début de semaine, mais l'information sur l'ampleur de l'accident n'a été communiquée qu'hier soir. Les recherches se poursuivent sur le fleuve Congo pour récupérer d'autres corps. C'est le premier rendez-vous en face à face pour la première fois depuis le retrait d'Afghanistan. l'Afghanistan, une délégation américaine va rencontrer ce week-end une délégation de talibans à Doha, au Qatar. Des discussions discrètes qui ont plusieurs objectifs, Sébastien Paour.
Le premier objectif du département d'État, c'est de faire sortir la centaine d'Américains qui se trouvent encore dans le pays, des ressortissants qui ont un lien étroit avec l'Afghanistan et qui n'ont pas encore décidé de partir. Washington veut la garantie qu'ils pourront le faire librement quand ils le voudront et surtout en toute sécurité, éviter à tout prix un nouveau drame comme l'attentat qui a coûté la vie à 13 soldats US en août près de l'aéroport de Kaboul pendant les dernières opérations de retrait. Des Afghans qui ont travaillé avec l'armée américaine pendant les 20 ans de présence veulent aussi quitter le pays et ils doivent pouvoir le faire s'ils sont éligibles. L'autre message que les États-Unis veulent faire passer aux nouveaux maîtres de l'Afghanistan lors de ces entretiens, c'est la vigilance. L'Amérique veillera à ce que les droits de l'homme et surtout ceux des femmes soient respectés, qu'un gouvernement inclusif soit formé. Mais le porte-parole du département d'État insiste, la légitimité des talibans ne sera acquise qu'à travers leurs actes. La rencontre à Doha ne signifie en aucun cas que les États-Unis reconnaissent le régime. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
À Marseille, mobilisation générale ce week-end sur les berges de l'Yvonne après la grève des éboueurs et les intempéries du début de semaine. Des tonnes de déchets se sont entassés. Plusieurs appels ont été lancés ces derniers jours pour nettoyer les rues et les plages. Et ce week-end, à l'appel de l'association Odyssey Green, des bénévoles nettoient les bords de l'Yvonne, le fleuve qui traverse la ville jusqu'à son embouchure aux plages du Prado. L'opération va durer jusqu'à demain soir. Reportage à Marseille, Cyril Arnaud.
Le ramassage vient de débuter et pourtant sur la berge les sacs poubelles s'accumulent. David Deux est l'un des directeurs de l'association Odyssey Green.
Donc là on a du pare-choc, on a beaucoup de pièces métalliques, on a du plastique, on a tout vraiment, on a voilà, il y a des textiles, du carton.
Les intempéries du début de semaine ont drainé quantité de déchets dans ce cours d'eau, phénomène accentué par la grève des éboueurs qui avait débuté quelques jours avant. Une situation qui a beaucoup touché Tiffaine.
J'ai eu limite la larme à l'œil et fallait que je vienne donner ma petite contribution à l'environnement et la biodiversité. Les habitants ne prennent pas soin de leur environnement, quoi. C'est pris souvent pour des caniveaux ou...
Non ramassés, ces déchets finiront dans la mer. Les plastiques se décomposeront en petits morceaux, accentuant le problème des microplastiques. Isabelle Poitou, qui gère l'association environnementale Mer Terre, appelle à la responsabilité de chacun.
Il faut empêcher que les déchets, même descendent dans les cours d'eau, il faut arrêter de les jeter par terre, il faut arrêter de consommer tout et n'importe quoi. C'est pire qu'une marée noire, parce que c'est insidieux, tout le monde s'en fout, personne ne pense mal faire.
Deux jours étaient prévus par Odyssey Green pour nettoyer 2000 mètres carrés, mais vu l'ampleur de la tâche, il prévoit finalement deux jours de plus. À Marseille, Cyril Ardo, France Inter.
Du football avec le forfait d'Adrien Rabiot à la veille de la finale de la Ligue des Nations. Demain, face à l'Espagne, le milieu de terrain des Bleus a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement. Adrien Rabiot a été contrôlé hier dans le cadre des tests mis en place par l'UEFA à 48 heures des matchs. Thomas Coignac.
La Fédération française de football l'a annoncé ce matin, juste avant que l'équipe de France ne fasse la route entre Turin, où elle a joué la demi-finale face à la Belgique, et Milan, lieu de la finale de demain contre les Espagnols. Adrien Rabiot n'était donc pas dans le bus, puisqu'il a été placé à l'isolement. Comme les autres bleus, il avait été testé hier midi. Heureusement pour ses coéquipiers, tous les autres tests sont ressortis négatifs. Après l'entraînement de ce soir au stade San Siro, lieu du match de demain, on en saura peut-être plus sur le nom du remplaçant d'Adrien Rabiot. Ça semble être bien parti pour Aurélien Tchouaméni. Le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco avait déjà remplacé Rabiot en cours de match contre la Belgique. Et depuis qu'il est arrivé en équipe de France au mois de septembre, il est plutôt convaincant malgré son inexpérience. S'il débute effectivement le match demain, ce serait seulement sa 5e sélection et sa 2e titularisation.
Le prix Bayeux des correspondants de guerre a été attribué aujourd'hui à Zeit Magazine en presse écrite, The New York Times en photo, Europe 1 en radio et à la BBC en télé. Pour la première fois dans l'histoire du prix, dont c'est la 28e édition, le nom d'un lauréat demeure anonyme pour sa sécurité. Il s'agit d'un Birman récompensé en photo. Le temps pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Demain, les conditions seront souvent semblables à celles d'aujourd'hui, avec tout de même l'après-midi un ciel beaucoup moins bleu, des Alpes du Sud à la Côte d'Azur, le long des Pyrénées et au nord de la Loire. Et au réveil, la grisaille et les brouillards seront toujours très répandus et souvent beaucoup plus lents à évoluer à proximité des cours d'eau. Au petit jour, on ne sera pas loin des gelées blanches en campagne, dans le secteur Champagne-Ardenne-Bourgogne-Alsace-Franche-Comté. En journée, en raison du vent de secteur nord généralement faible, sauf sur la Corse où les rafales atteindront 60 km/h, les températures de l'après-midi vont baisser d'un à 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Il est prévu 16 à Lille ainsi qu'à Mulhouse, 17 en Rhône-Alpes, 18 à Orléans et à Paris, 19 de la Bretagne au Poitou-Charentes et sur le centre Val-de-Loire. Il fera 21 à Bordeaux et Marseille et 23 à Perpignan et à Ajaccio.
Jean-Michel Golinski de Météo France.